de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité à VOA Afrique. Vous écoutez l'Amérique et vous. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine. John Linden à la présentation. George Léonard Sagnoa sur la mise en onde. Le temps d'une pause et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Pour la première fois, une femme noire va figurer sur un billet américain. Jack Lee, le secrétaire au Trésor, en a fait l'annonce cette semaine, mettant ainsi fin à un suspense qui tient en haleine les Américains depuis presque un an. Le nouveau billet de $20 portera le portrait de l'abolitionniste et ancienne esclave Harriet Tubman, qui a vécu de 1822 à 1913. Ironie de l'histoire, Harriet Tubman, dont le portrait sera sur les billets de $20, remplace Andrew Jackson, qui a vécu, lui, de 1767 à 1845 et a été le 7e président des États-Unis, mais aussi et surtout un propriétaire d'esclaves. Selon plusieurs médias américains, l'impression du nouveau billet ne devrait toutefois pas intervenir avant 2030. Que vous inspire cet acte du Trésor américain? Évidemment, nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001 202 619 31 40. Vous écoutez l'Amérique et vous sur VOA Afrique et bien sûr pour nous accompagner au cours des 25 prochaines minutes, nous aurons avec nous Félix Mayanga. Félix Mayanga est consultant et amoureux de l'histoire. Nous l'avons depuis Paris en France. Félix, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être parmi nous. Depuis Milan en Italie, nous avons Jean-Claude Bédé. Jean-Claude Bédé est également journaliste et faut-il le rappeler, il a longtemps travaillé comme correspondant de VOA Afrique à Yaoundé au Cameroun. Jean-Claude Bédé, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir et bienvenue à Milan.
C'est un plaisir de te retrouver sur VOA Afrique. On va accueillir notre dernier invité et c'est le professeur Ahmad Mahamad Hassan. Le professeur Ahmad Mahamad Hassan est constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena. Professeur Ahmad, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous pour votre disponibilité. Chers invités, vous restez en ligne. Je vous retrouve dans un instant. Aux États-Unis, pour la première fois donc, une femme noire, l'abolitionniste et ancienne esclave Harriet Tubman, va figurer sur le billet de $20. Qui était cette femme noire décédée en 1913 après avoir passé sa vie à essayer de sauver des esclaves? Idriss Fall a obtenu l'éclairage de Jeanne Maddox Tungara. Elle est professeure d'histoire à Howard University ici à Washington. On l'écoute.
C'était une femme qui est née en esclavage. Elle a pu échapper. Elle est devenue une de nos plus grandes femmes de résistance dans l'histoire américaine. Elle est devenue une abolitionniste. Elle est rentrée plusieurs fois dans les zones de l'esclavage pour amener les gens suivant les étoiles pour partir vers le nord, même vers le Canada. Vous avez entendu parler certainement du chemin de fer par lequel les gens s'arrêtaient par-ci, par-là, hébergés souvent par les Quakers, protestants religieux qui étaient contre l'esclavage. Les gens étaient hébergés dans le sous-sol souvent de ces maisons petit à petit. Il s'échappait pour aller vers le nord. Il n'y avait plus de l'esclavage.
Mais c'était un travail risqué, non?
Très risqué. Mais justement, elle était très humaine. Et puis aussi, encore, elle était malade parce que souvent, elle tombait en syncope. Tout le monde savait. Les gens attendaient et puis la protégeaient jusqu'à ce qu'elle se réveillait. Et puis, elle continuait le chemin. C'est parce qu'elle a été battue étant enfant. Elle a reçu des blessures à la crâne. Et c'est ça qui faisait ces épisodes de sommeil où elle tombait en syncope. Malgré tout ça, elle a continué. C'était une femme chrétienne, dévouée. On l'a surnommée la Moïse. Elle n'a jamais perdu, disons, un de ses charges qui partait avec elle vers le nord, vers la liberté.
Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait de voir que le trésor américain va mettre son portée sur le billet de 20 $?
Mais là, c'est extraordinaire. Et pourquoi? Parce que la personne qui remplace Jackson était un président des États-Unis, était un esclavagiste. Là, voilà maintenant qu'il est remplacé par une femme qui était née en esclavage et qui a participé à la libération de plusieurs et en plus qui a assisté l'armée de l'Union, l'armée du Nord, pendant la guerre civile. Et voilà maintenant son effigie qui se trouve sur les 20 $. Tout le monde ici est très fier, vraiment encouragé par cet acte. Ça ne s'est pas passé facilement parce qu'il n'y avait pas de femmes sur nos billets. Il n'y avait pas de femmes du tout. Et puis maintenant, pas seulement une femme, mais une femme abolitionniste, noire, libérateur. Vraiment, ça nous fait vraiment la fierté.
Voilà, Jan Madoux Tungara, professeur d'histoire à Howard University, ici même à Washington. Je vais revenir à nos invités. Alors, comment réagissez-vous à cet acte du Trésor américain de mettre le portrait d'une esclave sur le billet de 20 $? Je vais commencer par Jean-Claude Mbédé à Rome. À Milan.
Bah, écoutez, on peut dire que c'est le retour de la manivelle. Hein. C'est l'histoire qui est têtue, qui se réécrit. Et j'y vois beaucoup de symboles, absolument assez de symboles, parce que, comme l'a dit quelqu'un, c'est la victime qui remplace le bourreau sur le billet de 20 $. C'est surtout, n'est-ce pas, on peut dire une arrière-grand-mère quand on voit les cultures bantoues qui arrivent sur ce piédestal au moment où un président, le premier président noir de l'histoire des États-Unis est en train de saluer, n'est-ce pas, la scène politique. Je crois que tout cela, c'est des symboles qui ne peuvent pas être innocents. Et tout cela va booster, si je tiens, n'est-ce pas, je tiens compte des réactions qu'il y a eu ici même en Italie, non seulement au sein des communautés noires, mais aussi et surtout, même au niveau de la presse, c'est une secousse psychologique, mais également politique très importante quand on voit les meilleurs journaux italiens qui ont traité de la
question, cette actualité.
Quand on voit un peu la fierté que cela procure à tout un peuple de génération en génération qui se voit ainsi restituer un pan même de leur dignité qui avait été, disons-le comme ça, arraché.
Voilà. Merci Jean-Claude. Professeur Ahmad, vous, qu'est-ce que ça vous fait, cette histoire?
Écoutez, je ne suis pas du tout surpris par cet acte des États-Unis parce que, justement, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, les Américains ont élu un président issu d'un fils d'immigré kényan à la tête de la nation américaine, la première puissance mondiale, et noir déjà, parce que c'est des décennies que les Noirs luttaient pour avoir leur identité, d'être d'abord citoyens américains, d'être intégrés dans la nation américaine et en même temps d'avoir le droit de vote. Et aujourd'hui, voilà un président américain qui est en train de finir son deuxième mandat. Une noire esclave et descendante d'esclaves et abolitionniste qui a lutté toute sa vie. Aujourd'hui, elle va figurer sur le billet de 20 $, même si ça ne sera pas seulement dans l'immédiat, jusqu'en
2030. Oui.
Mais c'est déjà des signes importants, c'est des messages de la nation américaine qui décharge une partie de son capital passé, de son capital de nation d'esclaves, des nations de ségrégation raciale, etc., etc. L'Amérique donne des signaux forts à l'humanité dans la normalisation, dans l'égalité des êtres humains, dans la restitution des dignités. Il y a également un autre signal très fort, c'est les Noirs américains, qui jusqu'à très récemment et jusqu'à nos jours sont considérés dans une certaine sorte de déstigmatisation de la délinquance, de la drogue, etc., etc. Et on voit quelques cas de bavures policières dont les victimes se trouvent être toujours des jeunes noirs, etc., ou des États qui continuent à avoir une sorte de méprise ou de relents de racisme.
Alors,
Ça grandit l'Amérique, ça fait de l'Amérique une nation de l'humanité, mais c'est vrai, des symboles, il faut des actes aussi. Ça,
merci.
Je suis tout à fait d'accord avec l'ami de tout à l'heure.
Merci.
Mais en Afrique, nous recevons le message.
Voilà, merci professeur Ahmad. Félix Mayanga, ta réaction?
Je pense que ce qui a été décidé de faire figurer sur le billet de $20 le portrait de Harriet Tubman est très important pour l'Amérique, pour les États-Unis, surtout en ce moment où il y a pas mal de choses qui s'y passent, il y a beaucoup d'idées sombres qui sont véhiculées ici et là, et c'est très important de remettre au cœur de la société des symboles forts tels que le combat pour la liberté que Harriet Tubman a fait pour donner la liberté à ses semblables, d'abord à sa famille, mais à ceux qui étaient dans cette situation d'esclavage. Ouais. C'est très très important qu'on remette en lumière des idées fortes pour pouvoir réorienter la société quand à certains moments elle titube un peu.
Voilà, merci. On va aller à Maroua au Cameroun pour prendre un auditeur, et il s'agit de Mahamat. Mahamat, bonsoir. Mahamat n'est pas en ligne. Voilà, on va donc lire cette réaction de qui nous vient de Facebook. Elle est de Kim Lumbilanji. Lui dit un non-événement. Il considère que c'est un non-événement et une nouvelle tentative de lavage des cerveaux pour faire oublier aux noirs du monde le passé et les réalités actuelles dont sont victimes la diaspora des États-Unis. La justice sera que le Trésor américain paye des dommages et intérêts aux fils et filles des anciens victimes de l'esclavage et de la ségrégation au lieu de peindre un visage noir sur un dollar. Pour ce qui est du reste, c'est à la communauté noire des États-Unis que revient la responsabilité d'enterrer leurs morts et de perpétuer leur mémoire. Je vais relancer sur cette réaction de Kim Lubilanji. Jean-Claude, c'est un son de cloche tout à fait différent.
On peut comprendre l'auditeur parce que, vous savez, on ne peut ne pas, en termes très pratiques, se demander pourquoi est-ce que la stampa, comme on dit en Italie, pourquoi est-ce que le tirage des billets de $20 aura lieu vers 2030.
Oui.
Pourquoi tout cet espace? Je crois qu'en tenant compte de cet espace, tant on peut effectivement, il y a matière à se demander pourquoi maintenant. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est déjà quelque chose. Vous savez, l'histoire se nourrit des symboles. L'histoire se nourrit de tout cela. On ne peut pas. L'histoire ne court pas. Vous savez, la vérité est lente. Elle est lente à apparaître, à venir au grand jour, et c'est cela un peu qu'on peut retenir de cela. Ce qui est déjà bien, ce n'est plus une simple intention, c'est déjà effectivement la matérialisation quand on sait comment les grandes nations démocratiques fonctionnent par planification. On peut se dire qu'effectivement, ce n'est pas de la poudre aux yeux, ce n'est pas une simple promesse, c'est quelque chose qui va avoir le jour, et vous savez, on a besoin des gestes de ce type pour faire un saut qualitatif, même psychologiquement, vers le futur. Personne ne peut renier son histoire. Et je crois qu'en utilisant le passé au présent, on peut bien penser le futur.
Alors, Félix Mayanga, vous vivez en France. On sait qu'il y a une forte communauté africaine en France, d'ailleurs, comme en Europe. Est-ce qu'un tel geste est possible en Europe, c'est-à-dire avoir le portrait d'un noir ou d'une noire sur un billet d'euro, Félix?
Si c'est possible, je ne saurais pas l'affirmer, parce qu'en Europe, les situations sont différentes suivant les pays. n'est-ce pas? La situation en Grande-Bretagne n'est peut-être pas la même qu'en France, où moi je vis. Mm-hmm. Mais j'espère que ce genre de symbole fort qui est donné aux États-Unis, un jour, pour un des héros africains ou noirs africains qui ont une reconnaissance dans un pays comme la France, ben, ça pourra se faire, parce que c'est important pour changer dans l'esprit des gens, de tous, hein, pas seulement des Noirs, mais aussi des Blancs, changer ce qui, dans leur esprit, leur permet de voir les choses en noir ou en blanc. C'est-à-dire que dans ce cas précis de l'esclavage, l'esclavage a donné lieu à beaucoup de choses, notamment ceux qui pensent que le noir est génétiquement inférieur au blanc ou intellectuellement pas aguerri. Mais tout ça, ça vient de cette période d'esclavage où on a réduit l'homme noir à la chose, à une chose, à un produit, un article, n'importe quoi,
alors,
à tout sauf à l'être humain. Donc c'est important ce geste pour permettre aux gens de voir les choses autrement et d'avancer dans l'avenir.
On va prendre un auditeur, Bakary Keïta, et au téléphone. Bakary, bonsoir.
Ah, bonsoir.
À Bamako, vous nous appelez. Qu'est-ce que vous dites de ce geste du Trésor américain?
D'abord, c'est l'âme de Henriette repose toujours en paix. Mm. Donc, tard vaut mieux que jamais, enfin, un ouf de soulagement pour l'humanité tout entière.
Tout à fait.
Et le nom de cette grande.
Voilà, quelques soucis avec Bamako. Je vais me retourner vers le professeur Ahmad. Ce qui me paraît un peu ironique, et on l'a souligné, on ne le soulignera jamais assez dans cette émission, c'est que son portrait va remplacer celui de Andrew Jackson, ainsi ancien président des États-Unis et surtout ancien propriétaire d'esclaves. Quel message cela passe, à votre avis?
Justement, je voudrais simplement souligner le message fort, parce qu'en fait, il y a des symboles dont même des procès judiciaires ou des sommes énormes dans le cadre du dédommagement des victimes, quelles qu'elles soient, ne pourraient restituer une dignité bafouée. Alors, il y a une chose qui se passe. C'est le signal fort par rapport à cela, ça veut dire quoi? Voilà une abolitionniste qui va remplacer un esclavagiste devenu président des États-Unis. Il y a une chose, le message le plus important que transmet cette photo, c'est une sorte d'aveu de culpabilité, et de la reconnaissance des crimes, de la reconnaissance des torts qui a été porté à la race noire. Voilà, c'est ce message qu'il fallait lire et qui, pour moi, dépasse largement et de très loin les questions de procédure judiciaire ou des questions de procès interminables ou bien même de dédommagement. Cela n'exclut pas, bien entendu, toute autre forme de revendication légitime des droits. Mais les symboles, deux fois dans les grandes nations, dans l'histoire des peuples, les symboles, qu'ils soient même le nom dans les rues, qu'ils soient dans les musées ou dans les grands bâtiments ou dans les aéroports, etc., c'est pour immortaliser les héros ou pour simplement immortaliser ceux qui ont posé des actes forts dans la destinée d'une nation. Mais voilà que les États-Unis nous transmettent un message que moi je le lis tout simplement comme un message de reconnaissance de la culpabilité vis-à-vis des torts et des crimes qui avaient été commis contre les Noirs.
Alors, vous parlez de reconnaissance, vous parlez des héros, je vais me retourner vers Jean-Claude. Si tant est que Harriet Tubman peut être considérée comme héros, que pensez-vous de la manière dont les héros sont traités ou valorisés en Afrique?
C'est ce qui fait problème, parce que vous savez, si les héros, on doit le dire, hein, pour répondre à votre question tout de suite, j'y vais, on pourrait dire que les héros, pour être doux, n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient toujours avoir en Afrique. On pourrait même dire qu'ils seraient maltraités. Alors, c'est ce qui est important. Vous savez, il reste encore, ne serait-ce que dans le subconscient, des peuples africains, toujours cette idée que ce qui est meilleur, ce qui est bien, devrait venir de certaines nations présentées comme les plus importantes. C'est ici qu'il faut donc voir le geste fort qui arrive des États-Unis, et il est important que cette reconnaissance, quelqu'un parlait tout à l'heure du devoir de mémoire, puisse arriver des États-Unis d'Amérique. Et c'est très important, non seulement pour les historiens du présent, que sont les journalistes et les autres, mais aussi pour les jeunes générations qui ont tendance à mépriser, à négliger leur histoire, leurs héros, certainement par méconnaissance de leur histoire. Vous savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs, et ceux qui ont écrit l'histoire de l'Afrique, avec les héros de l'Afrique, souvent considérés à tort comme des maquisards. On l'a vu, vous avez vu des chefs d'État qui ont souvent comparé les héros des luttes pour l'indépendance à des maquisards. On en connaît quelques-uns. Donc, si les jeunes, aujourd'hui, ont souvent mal interprété ou alors ont souvent eu une sorte de mépris à l'endroit de leurs héros, c'est parce que ces héros leur ont souvent été mal racontés et il est important que des gestes comme celui-ci arrivent des pays importants comme les États-Unis d'Amérique. Ah.
Alors justement, à votre suite, cette réaction de Fatih Mayuto sur Facebook qui dit « Vraiment, félicitations aux Américains qui petit à petit comprennent quand même l'importance des Africains. Il reste aussi que nous, Africains, comprenions leur importance. » On va prendre une petite pause et on se retrouve juste après.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
L'Amérique et vous, sur VO Afrique, on va aller en N'Djamena pour prendre Mahamat Ngoukouni. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors, votre réaction, on tire presque à la fin de cette émission, votre réaction sur ce sujet?
Voilà, moi j'aimerais saluer l'action de l'Afrique américaine hein, de mettre cette femme sur le billet de $20.
Voilà.
Elle a été une héroïne hein, pendant son époque. Elle s'est battue toute sa vie pour la cause des autres.
Voilà. Alors, merci Mahamat. Je vais revenir à nos invités et la question, je vous la pose tous. Dans beaucoup de capitales africaines, et Dieu seul sait que... dans les pays francophones notamment, on trouve beaucoup de monuments, mais dans la plupart des temps, ces monuments ne sont pas des monuments des gens qui ont servi les nations dans lesquelles ces monuments sont. Quel est votre avis là-dessus? Je vais commencer par Félix.
Je pense que c'est tout à fait normal parce que depuis les indépendances, les systèmes politiques en Afrique ont empêché justement l'apparition ou la construction de héros, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que les héros, en général, ce sont ceux qui se battent pour la liberté, qui se battent pour le bien collectif, qui font avancer leur société, leur pays, pour être meilleur, pour vivre mieux et aller vers un avenir meilleur. Or que chez nous, en Afrique en général, les systèmes politiques empêchent cela. Donc, c'est normal que les monuments ou qui existent en Afrique sont souvent des monuments qui sont dédiés à des héros qui sont en général viennent pas d'Afrique,
hein. Voilà.
Ils viennent des colons ou un peu plus loin, mais ils sont pas africains.
Alors, Jean-Claude Mbédé, tout comme moi, vous êtes originaire du Cameroun et Dieu seul sait qu'il y a beaucoup de monuments à Yaoundé et à Douala qui ne sont pas forcément des monuments des gens qui ont servi le Cameroun.
Savez, vous le savez, Jean-Claude, vous le savez que ces monuments-là, John, sont... il y a un problème aujourd'hui avec l'activiste André Blaise Essama qui est en prison. Qui doit être en prison pour la troisième ou la quatrième fois pour avoir engagé une guerre sans merci contre les monuments des colonialistes français, et parce qu'il réclame justement que, à la place des statues du général de Gaulle ou de Leclerc ou de, qu'on y mette les statues de Oumniobé, d'Ernest Fafana, de Wandie, tous ceux qui sont considérés par la génération intermédiaire comme des héros, ceux ayant permis au peuple camerounais de lever la voix. Donc, c'est ce que nous disions tout à l'heure. Si les héros sont maltraités en Afrique, s'ils sont méconnus, C'est peut-être parce que l'histoire écrite par les vainqueurs n'a pas accordé de crédit, n'a pas octroyé de place à tous ces héros-là. Donc, on revient là-dessus, des actions comme celle-ci que nous sommes, qui sont l'objet de cette émission avec Ariel Toubman, je crois que peuvent effectivement booster le moral et même aussi forcer la main à tous les autres qui ont souvent eu une sorte de négationnisme vis-à-vis des crimes commis en Afrique,
voilà.
Puissent faire effectivement comme certains l'ont déjà fait avec la visite du président français au Cameroun qui a reconnu le génocide français en pays Bamileke.
Merci Jean-Claude.
Qui est effectivement à l'origine.
Voilà, on va prendre un dernier appel, celui de Njinga qui nous appelle d'Angola. Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, en 30 secondes, votre avis sur cette émission?
Je suis ravi d'être informé que l'Amérique doit aussi reconnaître les Noirs parce qu'ils ont, ils font partie de l'histoire de ce pays. Et ces taxes qu'ils vont faire, c'est vraiment généré. Et j'aimerais qu'ils puissent aller en avant et faire encore mieux que ça.
Voilà, merci.
Très important, on est ravis de cela.
Merci Ndinga. Malheureusement, on tire à la fin de cette émission. À nos trois invités, en 10 secondes chacun, ce sera le mot de la fin. On commence par le professeur Ahmad. 10 secondes vraiment, le mot de la fin.
Et le mot de la fin, c'est que je voudrais simplement dire que il est temps pour nous également de prioriser et de reconnaître le mérite de nos héros, que ce soit pour la lutte pour l'indépendance des différents États et notamment pour l'Afrique, et ou bien aujourd'hui il y a eu depuis 90 des grands leaders qui ont eu leur apparition dans le cadre de la réaffirmation de la lutte pour la revendication des droits et des libertés et des grandes démocraties.
D'accord.
Il faudrait reconnaître également.
Merci. Merci. Jean-Claude, 10 secondes, le mot de la fin.
Ce qui lui arrive aujourd'hui, cela nous comble d'espoir plus que de fierté.
Voilà,
nous
merci.
Nous espérons effectivement que...
Merci. Félix, le mot de la fin, 10 secondes. Ok, d'accord. On arrive au terme de cette émission. Merci pour votre fidélité. Georges Léonard Sagnot, Nelson et Jean-Claude.